Une rentrée scolaire sous le signe du deuil. Le 2 novembre prochain, enseignants et élèves reprendront les cours dans un climat particulièrement pesant après l'assassinat de Samuel Paty. Leur ministre Jean-Michel Blanquer dévoile aujourd'hui les pistes sur la manière dont il souhaite qu'on aborde le sujet en classe. Des couvre-feux un peu partout en France et en Europe, Italie, Belgique et maintenant Espagne, qui décrétera a priori l'état d'urgence sanitaire pour permettre de confiner certaines régions tout à l'heure. En France, ces mesures font toujours grincer des dents. Certains spécialistes s'inquiètent de leur effet ou de leur absence d'effet dans les prochains jours. C'est le cas de l'épidémiologiste Catherine Hill, vous l'entendrez. Nous évoquerons également les invectives entre la France et la Turquie et ce ton qui monte entre les deux pays. Hier, Recep Tayyip Erdogan s'est interrogé sur la santé mentale d'Emmanuel Macron, lequel a rappelé son ambassadeur sur place. Analyse avec notre invité, le chercheur Jean Marcoux. Enfin, nous irons aussi au Chili, où l'on vote pour abandonner ou non la constitution écrite sous Pinochet. En Corée du Sud, où vient de mourir l'homme le plus riche du pays, le patron de Samsung. Et nous nous demanderons avec Alain Prost si Lewis Hamilton est, oui ou non, le meilleur pilote de tous les temps. Bienvenue dans ce journal.
France Inter.
Comment raconter l'horreur, l'indicible à des enfants? C'est la question que se posent déjà bon nombre d'enseignants en attendant la rentrée scolaire du 2 novembre qui tombera deux semaines après l'assassinat brutal de leur collègue Samuel Paty. Faut-il aborder le sujet? Comment montrer ou non les caricatures à cette occasion? Dans une interview au JDD ce matin, Jean-Michel Blanquer veut donner un cadre clair et précis pour guider instituteurs et professeurs. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
On avait déjà eu les grandes lignes la semaine dernière. Cette fois, le ministre de l'Éducation nationale détaille ce qui se passera le jour de la rentrée.
Dans les collèges et lycées, le lundi 2 novembre, tous les personnels se retrouveront avant les élèves pour organiser cet hommage qui prendra d'abord la forme d'un temps pédagogique pour réaffirmer les principes de l'école et de la République. Ensuite, élèves, professeurs et personnels des établissements scolaires se réuniront dans la cour pour une minute de silence, suivie de la lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès, écrite en 1888, qui souligne que ce métier est le socle d'une société plus juste et plus égalitaire. Un texte d'ailleurs lu mercredi lors de l'hommage national à Samuel Paty par l'un des amis de l'enseignant assassiné. Dans le primaire, précise le ministre de l'Éducation nationale, un moment pédagogique est aussi prévu à la rentrée. Une minute de silence et un temps d'échange. Les détails sont en cours d'élaboration. Voilà pour le jour de la rentrée, mais c'est un travail sur le long terme qui doit avoir lieu, précise Jean-Michel Blanquer. Quant à savoir si les caricatures doivent désormais figurer dans les manuels, respectons la liberté pédagogique et éditoriale, répond-il. Pas de censure, mais pas d'obsession non plus de ces caricatures.
Merci Delphine Evenou. À l'origine de ce contexte particulièrement lourd, il y a, on le disait, le meurtre de Samuel Paty. Et justement, un autre professeur d'histoire-géographie, survivant d'une autre attaque terroriste, publie prochainement un ouvrage, Journal d'un rescapé du Bataclan. Christophe Naudin y livre un témoignage poignant qui résonne évidemment encore plus aujourd'hui avec l'assassinat de son confrère, l'émotion et l'hommage qui lui a été rendu à la Sorbonne mercredi dernier. Un hommage qui a touché l'écrivain, même s'il l'a un peu gêné. Écoutez-le.
C'est un moment très grave, donc il y a une forme d'union nationale, mais ça arrive souvent dans ces cas-là et c'est souvent de courte durée parce que ces derniers mois et même ces dernières années, c'était pas forcément le cas, l'unanimité par rapport à notre métier. Donc voilà, on profite un petit peu, mais malheureusement pour une occasion grave. Mais je crois pas trop à des lendemains positifs pour notre profession. Dès décembre 2015, l'État islamique avait visé explicitement les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale dans son journal. Mais là, c'est vrai que le fait que ce soit concret comme ça, c'est assez difficile à encaisser. Alors, je suis pas non plus dans la paranoïa. Je me sens un peu plus en sécurité qu'il y a quelques années. Mais j'en parle dans le bouquin, effectivement, au moins les 3-4 années qui ont suivi l'attentat. Il y a des choses qui reviennent. Des moments, je me dis, ma salle n'est pas forcément bien placée. S'il y avait une attaque dans le collège, il y a une espèce de menace sourde qui n'est pas permanente. Heureusement, autrement, ce serait invivable. Mm-hmm. Mais il y a effectivement une forme d'anxiété. De temps en temps, en tout cas, ça peut arriver.
Christophe Naudin, dont le livre « Journal d'un rescapé du Bataclan » sort le 30 octobre aux éditions Libertalia, au micro de Matteo Maestracci sur France Info. Et si on se reconfinait? L'hypothèse aurait pu paraître farfelue il y a encore quelques semaines. Elle est désormais clairement sur la table. Cédric O, par exemple, secrétaire d'État à la transition numérique, estimait ce matin qu'il ne fallait absolument rien écarter pour faire face à l'épidémie. D'ailleurs, 54 départements sont depuis vendredi en reconfinement nocturne avec le couvre-feu. Une mesure forte, nécessaire selon le gouvernement, mais difficile encore de savoir si elle sera efficace. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, par exemple, la solution ne peut passer que par des dépistages massifs.
confiner, c'est juste comme mettre la viande avariée dans son congélateur et la ressortir après. L'épidémie repart ensuite si on n'en profite pas pour tester massivement. D'abord, il faut simplifier tous les processus. Il faut faire des prélèvements salivaires parce que c'est plus facile. Les prélèvements dans le nez, 680 000 Anglais se sont auto-prélevés, donc on peut faire le prélèvement soi-même, ça simplifie les choses. Et pour ce qui est de la PCR, on peut faire des PCR groupés. Ça se fait dans un certain nombre de pays. Vous prélevez 20 personnes. Vous divisez chaque prélèvement en deux, vous gardez la moitié et l'autre moitié, vous la mettez dans un seul tube et vous cherchez s'il y a du virus dans ce tube. S'il n'y a pas de virus, les 20 personnes sont négatives, vous avez fait un seul test au lieu de faire 20 tests. On peut aussi utiliser ce que les pompiers de Marseille font très bien, chercher le virus dans la sortie des égouts. S'il n'y a pas de virus à la sortie d'une petite ville, c'est qu'il n'y a pas de virus dans cette ville. C'est pas la peine d'aller tester les gens. On peut gagner du temps comme ça. Il faut déjà décider qu'on veut tester massivement la population. Alors, cette décision n'est pas prise. Le gouvernement a décidé qu'on allait vivre avec le virus. C'est une catastrophe, donc ça ne marche pas du tout.
Catherine Hill, interrogée par Claire Briguet-Lamarre. Utilité pas forcément assurée, donc, mais en attendant, le couvre-feu a bien des conséquences concrètes pour tout un pan de l'économie, notamment la restauration. Les bars, les bistrots, bien sûr, mais aussi les restaurants gastronomiques, des lieux où l'on prend normalement le temps de profiter longuement des plats, de déguster, mais où l'on doit désormais avoir fini son assiette et plier les voiles avant 21h. Illustration dans le Gard avec ce reportage de Sarah Nedjar.
Noix de Saint-Jacques, purée de chou-fleur, amandes grillées et pointe de caviar. 113 euros. Le menu hors de question de l'engloutir en une demi-heure. Depuis le couvre-feu, le chef Damien Sanchez du restaurant Scab modifie ses horaires. Le dîner est servi dès 18h30.
On ouvre plus tôt et on a la contrainte de temps, donc il faut que les gens partent plus tôt. Pour qu'ils passent un bon moment, on a essayé d'adapter au maximum le menu. On a enlevé notre plateau de fromage qui prend du temps pour les mignardises. Pour pas que les gens se sentent un petit peu oppressés à la fin du repas, on a préféré les enlever, mais les faire différemment et à emporter. En France, c'est vrai que c'était sportif.
Sportif, car l'emploi du temps des équipes est complètement bousculé. Vincent Croisard, chef du restaurant du même nom.
Au niveau de l'horaire, nous, c'est vrai que c'est plus contraignant parce que le temps de pause est raccourci l'après-midi. On a des services normalement qui durent entre 2 et 3 heures. Du coup, on a avancé les horaires. Les clients doivent partir à 20h45 maximum, je pense, le temps qu'ils rentrent chez eux. Tous les clients ne sont pas prêts pour l'instant à venir donc à 18h30. Mais bon, ça viendra, je pense.
D'ordinaire, le restaurant affiche complet le samedi soir, environ 24 tables. Hier, seuls 6 clients ont maintenu leur réservation.
Après la France qui l'a voté hier à l'Assemblée nationale, c'est l'Espagne qui se prépare à un nouvel état d'urgence sanitaire. Notre voisin fait lui aussi face à une explosion des cas de Covid-19. Une réunion extraordinaire du Conseil des ministres a eu lieu ce matin. Elle doit être suivie d'une conférence de presse du Premier ministre Pedro Sanchez. Marie-Hélène Ballesteros.
7 mois plus tard, le gouvernement central espagnol devrait adopter un nouvel état d'urgence sanitaire, mais cette fois-ci, l'objectif n'est plus de décréter un confinement général dans tout le pays, ni de centraliser les politiques de santé comme au mois de mars dernier. Les régions espagnoles devraient donc poursuivre leur gestion pour l'instant et maintenir leurs compétences en matière de santé. D'ailleurs, la majorité de ces régions ont demandé expressément cet état d'urgence au gouvernement central. La plupart sont gouvernées par le Parti socialiste et curieusement, aucune par le Parti populaire. Pourquoi une telle demande de la part des régions espagnoles, car elles souhaitent disposer d'une sorte de parapluie légal qui leur permettra désormais d'adopter plus facilement les mesures de restriction à la mobilité de la population, comme les couvre-feux, sans dépendre de la décision des tribunaux régionaux. Par exemple, cette semaine, le tribunal supérieur de justice du Pays basque a annulé des mesures restrictives adoptées par le gouvernement régional basque. L'annonce d'un nouvel état d'urgence en Espagne est imminente. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez devrait paraître dans les prochaines minutes depuis le palais de la Moncloa. Madrid, Marie-Hélène Ballesteros, France Inter.
Et puis notez que c'est le cas un petit peu partout en Europe, hein, cette tendance au couvre-feu. L'Italie qui en a posé un cette semaine dans 3 régions annonce aujourd'hui un renforcement après un nombre record de nouveaux cas. Fin du service à 18h dans les bars et restaurants, fermeture des cinémas, théâtres, équipements sportifs. De son côté, la Belgique va avancer demain l'heure limite du couvre-feu à 22h avec une fermeture des magasins à 20h et l'interdiction des activités culturelles et sportives.
France Inter, le journal de 13h. Olivier Bénis.
Le torchon brûle entre Paris et Ankara. Hier, le président turc a remis en question la santé mentale de son homologue français. L'Elysée a répliqué en rappelant son ambassadeur sur place. Bref, le ton monte entre Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron dans un contexte déjà très tendu entre les deux pays. On fait le point sur cette situation complexe avec notre invité Jean Marcoux. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble, spécialiste en relations internationales. D'abord, quelle impression vous laisse cette escalade en parole entre les deux dirigeants turcs et français ?
Ben, d'une part, il y a la poursuite finalement d'un processus auquel on assiste depuis l'été dernier sur différents théâtres d'opérations, la Méditerranée orientale, le Liban, la Libye, l'Afrique et même l'Azerbaïdjan plus récemment, où on a vu la France et la Turquie effectivement être confrontés littéralement et parfois en des termes assez vifs. Mais je crois qu'il y a un cadre nouveau qui est effectivement celui de la loi sur le séparatisme, en tout cas du projet de loi sur le séparatisme, et des propos d'Emmanuel Macron qui ont suivi effectivement l'assassinat de Samuel Paty.
C'est ça qui a envenimé la situation selon vous ?
Comment ?
C'est ça qui a envenimé la situation, parce qu'on n'était vraiment jamais arrivé à un tel niveau, en fait, le retrait d'un ambassadeur.
Oui, je crois que ça a effectivement envenimé la situation. C'est effectivement cette loi auquel Recep Tayyip Erdogan a plusieurs fois réagi. Et puis, le contexte également qui, je crois, est peu perçu. C'est-à-dire que cet assassinat a été mal retransmis par les médias au Moyen-Orient. Les médias turcs n'en ont pas parlé. Le gouvernement turc n'a pas envoyé de condoléances au gouvernement français à cet égard. Et donc il y a finalement une vision uniquement des mesures qui ont été prises contre des musulmans. Et finalement tout le contexte est un peu ignoré par les dirigeants, c'est sûr, parce qu'ils le savent, mais également par l'opinion publique.
C'est une image aussi qui s'est répercutée au-delà de la Turquie, hein, parce qu'on voit passer des manifestations anti-Macron, par exemple dans la bande de Gaza, des boycotts de produits français. C'est quelque chose de plus profond en fait dans l'image qu'ont les pays majoritairement musulmans de la France ?
Oui, actuellement, oui, je crois, et je crois que Recep Tayyip Erdogan essaye aussi de prendre le leadership du mouvement qui est en train de naître actuellement, indiscutablement. Mais je crois qu'il y a un petit peu, effectivement, cette ignorance par le monde arabe de ce qui s'est passé en France. Même si on sait que quelqu'un est mort, on n'a pas vu toute la symbolique, finalement, derrière cette affaire. Et cette ignorance mutuelle favorise effectivement pour les dirigeants actuellement des propos qui sont effectivement très anti-français.
Vous disiez justement que le président Erdogan aimerait prendre la tête un petit peu de ce mouvement. Paris justement dénonce une campagne islamiste contre la France. Jean-Yves Le Drian parle lui de propagande haineuse pour attiser la haine contre nous. C'est aussi votre impression ?
Ben en tout cas, il y a à l'heure actuelle, oui, enfin, disons que Recep Tayyip Erdogan a toujours, depuis plusieurs années, voulu se positionner au cœur du monde musulman et voulu apparaître comme un leader de ce monde musulman. Il a une rivalité à cet égard avec plusieurs autres dirigeants. On le voit bien, notamment lors des conférences de l'Organisation de coopération islamique. Et donc c'est un projet et je crois que finalement il a trouvé dans cette affaire une occasion de se remettre en selle à nouveau sur cette question.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jean-Marc Coux. Grâce à vous, on comprend que ce n'est pas juste une bataille d'ego, donc il y a bien un contexte très particulier de tension entre Paris et Ankara. Merci encore, Jean-Marc Coux, professeur à Sciences Po Grenoble, spécialiste en relations internationales. On parlait de Jean-Yves Le Drian, justement. Il est au Mali aujourd'hui et demain, le ministre des Affaires étrangères français s'y rend pour apporter officiellement le soutien de la France aux autorités de transition après le putsch du 18 août et après ces temps surtout d'aide militaire française localement contre les mouvements djihadistes de la région. Au Chili, plus de 14 millions d'électeurs participent ce dimanche à un scrutin historique pour le pays, approuver ou refuser l'idée de rédiger une nouvelle constitution, car l'actuelle loi fondamentale chilienne remonte à l'époque de la dictature du général Pinochet, avec certes plusieurs modifications depuis le retour à la démocratie en 1990, mais toujours la même défense du modèle néolibéral imposé par la force à l'époque. Après un vaste mouvement social fin 2019, les Chiliens ont obtenu l'organisation de ce référendum pour tout remettre à plat, Justine Fontaine.
Éducation, santé, retraite, de nombreux services publics ont été entièrement ou partiellement privatisés sous la dictature. Et cela a des conséquences directes sur la vie quotidienne des Chiliens, comme celle de la famille Léon.
Hola, pase.
Marcia León, 63 ans, est professeure dans une école maternelle de Santiago. Elle s'attend à toucher une retraite extrêmement faible.
Je devrais déjà avoir pris ma retraite, mais je ne peux pas. Il faudrait que je vende la maison, que je loue une chambre. Et ensuite, ma retraite me suffirait tout juste à acheter à manger, peut-être à acheter quelques médicaments. Alors je prévois de travailler et cotiser jusqu'à 69 ou 70 ans pour toucher une retraite un peu plus digne.
Depuis la fin de la dictature, la pauvreté a beaucoup diminué, mais le mouvement social puis la pandémie de Covid-19 ont mis en évidence la fragilité des classes moyennes. Pour accéder à l'université, par exemple, les Chiliens s'endettent très tôt, comme Javiera, la fille de Marcia León.
J'ai 35 ans et je suis avocate. Je dois 24 000 euros environ pour mes études et pourtant j'étais boursière. La banque a engagé des poursuites contre moi car je n'ai pas commencé à rembourser l'emprunt.
L'an dernier, elle a manifesté avec sa mère contre les inégalités sociales et le modèle néolibéral hérité de la dictature. Ce dimanche, d'après les sondages, plus de 60% des Chiliens pourraient voter oui à une nouvelle constitution. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Un scrutin qui se tient donc aujourd'hui après avoir reporté de 6 mois suite à l'épidémie de Covid-19. Les bureaux de vote ont ouvert il y a un petit peu moins d'une heure partout au Chili. C'est une autre étape historique. Le traité interdisant les armes nucléaires va pouvoir entrer en vigueur. Il manquait la ratification d'un 50e pays. C'est chose faite désormais grâce au Honduras. Le texte pourra donc s'appliquer dans 90 jours en droit international. Il s'agira toutefois d'aller plus loin qu'une simple entrée en vigueur symbolique et ce ne sera pas forcément simple puisque au moment de signer, les principaux détenteurs de l'arme atomique dans le monde ont, eux, passé leur tour. C'était un peu le Steve Jobs sud-coréen. Lee Kun-hee, président de Samsung, est mort aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Tout comme son homologue américain, il a transformé en quelques décennies une entreprise technologique comme les autres en véritable géant mondial de l'informatique et de l'électronique. Il n'exerçait plus de fonction officielle depuis un arrêt cardiaque en 2014, mais il laisse derrière lui un véritable empire économique, mais aussi une image controversée, Nicolas Roca.
Lorsque Lee Kun-hee hérite de Samsung en 1987, son père, le fondateur du groupe, lui lègue une entreprise de téléviseurs et de micro-ondes bas de gamme. Plus de 30 ans après, la capitalisation boursière de Samsung a été multipliée par 350 et le groupe est devenu un géant de l'électronique mondiale. À son arrivée à la tête du conglomérat, il a souhaité modifier en profondeur la mentalité, changer tout, sauf vos femmes et vos enfants, avait-il intimé au personnel de Samsung en 1993. Hospitalisé depuis 6 ans, Lee Kun-hee a diversifié le conglomérat et développé des dizaines de filiales. Industrie lourde, hôtellerie, assurance, construction et même parc d'attractions, l'entreprise représente à elle seule 1/5 du PIB sud-coréen. L'homme d'affaires, connu pour être autoritaire, avait une image contrastée dans l'opinion publique, notamment à cause de scandales de fraude fiscale et de non-respect du droit du travail dans certaines usines. Nicolas Roca, Séoul, France Inter.
Lui s'appelle Lewis Hamilton. Il a 35 ans et aujourd'hui, il pourrait devenir le pilote de Formule 1 le plus primé de l'histoire. Il y a 2 semaines, il avait déjà égalé le record de Michael Schumacher. 91 victoires en Grand Prix au total. Si Hamilton s'impose cet après-midi au Grand Prix du Portugal, il dépassera ce sommet. Alors cela veut-il dire pour autant qu'au volant, Lewis Hamilton est forcément meilleur que ne l'a été Schumacher? Jean-Pierre Blimeau a posé la question à un autre grand champion français. C'est lui.
Pour Alain Prost, lui-même 4 fois champion du monde et qui écume toujours les circuits, comme directeur non exécutif de Renault F1 Team, Hamilton, comme Schumacher, bénéficie d'une écurie dominatrice dont il sait profiter au maximum, même s'il n'est pas forcément opportun de comparer 2 pilotes à 2 époques différentes. Alain Prost.
On croit toujours que les records ne peuvent pas être battus, et en fin de compte, celui-là va être battu aussi. Mais pour avoir ce genre de record, c'est uniquement en restant dans la même équipe très longtemps qu'on peut faire ce genre de choses, avec une domination qui est quand même assez exceptionnelle, qui a été celle de Ferrari aussi à l'époque de Michael. Ce qui m'impressionne, c'est aussi sa manière de gérer sa carrière et de gérer ses courses. Il fait très peu de fautes, il galvanise l'équipe parce que c'est quand même lui qui est le leader de cette équipe. Il va battre ce record et ce n'est que mérité.
Schumacher a remporté 5 de ses 7 titres avec Ferrari. Hamilton en a également remporté 5 avec Mercedes. Sauf accident, le Britannique va d'ailleurs égaler Schumacher au nombre de titres de champion du monde cette année car une 7e couronne lui tend les bras à la fin de la saison. Mais dès cet après-midi, Lewis Hamilton pourrait d'ores et déjà offrir un 7e titre consécutif à Mercedes dans la catégorie des constructeurs.
Et on en saura plus cet après-midi puisque le Grand Prix du Portugal démarre tout à l'heure à 14h10.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
On fait le point sur le temps de ce samedi avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Peu de place pour le soleil aujourd'hui, malgré des trouées du nord de la Loire à la Belgique, mais elles seront peu durables et souvent entrecoupées d'averses. Plus bas dans la zone Poitou-Charentes, Lorraine, Franche-Comté, Massif central, Sud-Aquitaine, ambiance plutôt maussade, accompagnée de pluies continues, venant s'échouer en soirée sur les Alpes et les Pyrénées, en donnant pas mal de neige vers 1500 mètres, avec de fortes pluies d'orage la nuit prochaine sur la Provence. Les éclaircies du matin des régions méridionales vont résister sur l'Occitanie, mais près de la vallée du Rhône, le vent marin sensible va apporter de plus en plus de gris. Du vent également cet après-midi assez fort sur les Pyrénées et sur les départements côtiers du nord et de l'ouest. Les températures en baisse d'un cran sous les averses du quart nord-ouest vont à peu près garder le même niveau qu'hier sur les autres régions.
Le dimanche soir, sur France Inter,
autant on emporte l'histoire.
Stéphanie Duncan.
En 1872, un brick goélette battant pavillon américain est retrouvé en pleine mer au large du Portugal, abandonné à lui-même, sans personne à bord. La Marie Céleste entre alors dans la légende des vaisseaux fantômes, errant à jamais sur les mers.
Autant on emporte l'histoire.
Le mystère de la Marie Céleste, c'est tout à l'heure à 21h sur France Inter.
France Inter aime.
Après 9 mois ferme, Adieu les cons, un film d'Albert Dupontel.
Retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
À ce point ?
Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets.
Avec Virginie Efira et Albert Dupontel.
C'est pas la peine de prévenir ma femme et mes enfants. Je n'ai pas. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez ?
Oui. Adieu les cons d'Albert Dupontel, actuellement au cinéma, un film France Inter.
CO2 Mon Amour, avec le WWF. Ensemble, préservons l'équilibre des forêts. Rendez-vous sur www.fr.
13h et presque 22 minutes sur France Inter, c'est l'heure d'ouvrir les carnets de nature de CO2 Mon Amour, en faisant bien attention de ne pas laisser les pages s'envoler, Denis Chessou, puisque votre émission est consacrée au vent.